Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 25 de Time for Tales. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, d'autant que je suis accompagné de deux personnes que j'estime beaucoup, à savoir Cédric. Bonjour Cédric.
Salut, salut.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien, toujours fidèle au poste.
Et la deuxième personne, c'est, vous vous en doutez, c'est votre préféré, chers auditeurs, Quentin. Bonjour Quentin.
Bonjour Simon.
Et toi, comment ça va ?
Ça va bien, et toi ?
Ça va très bien, d'autant que après le podcast, on a prévu une petite raclette chez toi, donc comment est-ce que ça pourrait aller mieux ?
J'ai tellement hâte.
Parce qu'il faut savoir que j'ai appris 5 minutes après que Cédric soit arrivé et que tout était déjà prévu, etc., que Cédric en fait déteste le fromage. Donc on va essayer d'enregistrer vite, histoire d'avoir le temps de passer au magasin, lui chercher autre chose, puisque monsieur n'est jamais content. Voilà, hein, il faut bien faire...
Chacun ses tares.
Chacun ses tares. Exactement. Avant de véritablement commencer l'épisode, je vais quand même déjà vous demander un peu de quoi vous allez parler, hein, comme à chaque fois. Restez vague, bien évidemment, donnez juste envie aux auditeurs d'en savoir plus. Vu qu'on commencera par Quentin après moi, on va d'abord demander à Quentin, de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui ?
Moi, je vais vous parler d'un Anglais excentrique, un soldat. Je ne vais pas vous dire quand il a vécu, parce que c'est une partie de mes interrogations quand je vais vous le présenter. Mais il a une histoire assez particulière, et assez amusante et insolite.
Oh bah, alors on fit le thème. Et toi Cédric ?
Eh ben moi, je vais profiter qu'on est justement pendant les fêtes de fin d'année, Noël, magie, tout ça, pour renouer avec une vieille tradition, parce qu'il faut savoir que jusqu'au début du XXe siècle, en fait, c'était la période rêvée pour se raconter des histoires qui font peur, un petit peu dérangeantes. On s'échangeait des cartes postales un petit peu spéciales comme ça. Et c'est un peu tombé en désuétude. Du coup, moi, je vais renouer avec ça ce soir. Il n'y aura pas de monstres, de folklore. On va rester dans le thème de Time for Tales avec des histoires vraies, mais qui vont quand même être plutôt dérangeantes et plutôt effroyables.
Oh, ça a l'air bien. Je vois que tu es un homme de tradition, Cédric.
Exactement.
Restaurons un peu les traditions. De mon côté, vous allez voir de quoi je vais parler. Mais avant de se lancer, d'abord un petit mot de notre sponsor, Red Shadow Legend. Non, c'est pas vrai. On aimerait bien, mais malheureusement, personne n'a décidé de nous sponsoriser. Mais par contre, je vais un peu reprendre tes mots, Cédric, puisque tu parlais des fêtes de fin d'année. Hein, Noël a eu lieu. Les obligatoires débats alcoolisés avec les membres de la famille, qu'on voit qu'une fois par an, ces débats-là ont eu lieu aussi. Et la nouvelle année vient de pointer le bout de son nez. En réalité, pas encore pour nous, au moment où on enregistre, mais bien au moment où vous écouterez l'épisode, donc dans une semaine. Et bien entendu, on ne fête pas Noël ou même la fin de l'année de la même façon. Il y en a certains qui préfèrent voir leur famille, il y en a d'autres qui préfèrent le passer en compagnie de leurs amis, il y en a qui préfèrent rester au chaud à la maison, il y en a qui ne jurent que par le fait de sortir, mais en règle générale, une chose subsiste chez toutes et tous, on mange comme des porcs, on se gave, c'est un peu le but, et après, on regrette. Eh bien ce soir, chers amis, mon but, c'est de vous déculpabiliser un peu. Je vais vous parler de quelqu'un qui a probablement encore plus d'appétit que vous, quelqu'un qui va vous faire passer pour un petit joueur, même si vous avez mangé apéritif, entrée, plat, dessert et digestif en vous servant à chaque fois. Aujourd'hui, chers amis, laissez-moi vous présenter quelqu'un qui répond au doux nom de Tarare. Est-ce que vous le connaissez déjà ?
Pas du tout.
Ah, non. Ça me rassure, ça me rassure. En tout cas, si vous n'êtes pas trop lent à la détente, et je sais que ce n'est pas votre cas, vous avez déjà compris que Tarare, c'est quelqu'un qui a tout le temps la dalle. Et pas de chance pour lui, il naît à une époque où ça peut poser problème, puisqu'on situe en effet le début de sa vie aux alentours de 1772. Donc à une époque où la nourriture est peut-être un peu moins facilement accessible qu'aujourd'hui. On n'a pas de certitude totale sur l'année, ni même sur l'orthographe de son nom, ni même sur la véracité de celui-ci, mais c'est celui-là qui a marqué l'histoire, donc on va l'appeler comme ça, on va l'appeler Tarare. Parfois c'est écrit avec un R, parfois avec deux R. Si on a parlé et qu'on parle encore de lui dans le monde entier, c'est en plus pas si loin de chez nous qu'il est né, qu'il a vécu, puisqu'il est originaire de Lyon, en France. Dès sa naissance, Tarare se démarque très vite par son appétit hors du commun, mais même s'il est déjà très compliqué de le rassasier, ses parents s'en accommodent en premier temps, parce que même très vorace, un bambin, ça reste quand même toujours gérable, normalement. Adolescent, par contre, ses parents réalisent qu'il représente un véritable puits sans fond, et ça commence réellement à poser problème. On raconte qu'à 17 ans, il pouvait manger jusqu'au quart d'un bœuf en une journée. Un bœuf, c'est gros, les gars.
C'est quand même pas mal.
Alors rapidement, ses parents, ils arrivent à la conclusion que l'appétit de leur fils est absolument ingérable, et du coup, ils font ce que tout adulte responsable et aimant ferait à sa progéniture, ils l'abandonnent.
Ah, moi j'aurais dit, ils en font un monstre de foire pour se faire du blé et payer la nourriture avec.
Ah mais t'es presque devin, parce que... On y vient, mais pas tout de suite. En tout cas, ses parents l'abandonnent, et du coup, c'est une vie de vagabondage qui débute pour notre malheureux protagoniste, qui va sillonner la France, principalement la capitale, toujours à la recherche de nourriture. C'est son seul but. Donc il vit de la mendicité, mais très rapidement, ça ne suffit plus à remplir les caisses, et donc encore moins à son estomac, et Tarar se met alors à voler, toujours pour combler sa faim. La réputation du jeune homme se construit de repas en repas, hein, on le voit un petit peu, on en parle dans Paris, jusqu'au jour où quelqu'un flaire le bon coup et se dit qu'il y a probablement un petit biais à se faire dans l'histoire. Et là on arrive à ce que Cédric disait, Tarar est en effet embauché dans une sorte de freak show dans lequel son rôle sera naturellement d'ingérer tout et n'importe quoi et bien entendu dans des quantités astronomiques. Alors lors de ces représentations qu'on peut qualifier de folles, on le voit notamment ingérer des pommes, alors... Là, c'est pas si impressionnant que ça, sauf qu'il les mange
entières. Oui, ça dépend si c'est entier et en grosse quantité.
Entière et sans les mâcher. Ah. On le voit aussi mettre jusqu'à 12 œufs entiers dans sa bouche, sans les casser. Et sinon, niveau truc bizarre, il mange du silex, des bouchons de liège et même des animaux vivants. Sa vie de monstre de foire et d'artiste de rue se passe relativement bien. Lui, il est content, il peut manger un petit peu tout ce qu'on lui donne. Du coup, je ne dirais pas qu'il est rassasié, mais presque. Mais un jour, guerre oblige... Tarar est forcé de rejoindre l'armée. Coup dur pour lui, parce que les rations ne lui suffisent absolument pas. Et du coup, il est systématiquement à la recherche de magouilles pour obtenir des rations de la part de ses collègues. Il rend des services à droite à gauche, uniquement contre de la bouffe. Mais ça non plus, ça ne suffit pas. La moindre seconde de temps libre qu'on lui accorde est dédiée à la recherche de nourriture. Et encore, quand je dis nourriture, je suis très généreux, parce qu'il n'hésite pas à gérer toutes les ordures qu'il peut trouver. Et ça ne suffit pas non plus. Il est vraiment perpétuellement affamé, et du coup, vu qu'il n'arrive pas à manger suffisamment, il arrive parfois tout juste à tenir debout, et ses supérieurs se rendent compte qu'il a besoin effectivement de plus de nourriture qu'à la normale, qu'à l'accoutumée, et ils lui accordent du coup 4 fois le volume auquel chaque soldat a droit. C'est pas suffisant.
Clairement pas.
Du coup, en parallèle de ça, Tarar continue de se nourrir de tout ce qu'il trouve, et un jour, on le surprend par exemple dans une pharmacie en train de dévorer des cataplasmes. Alors que c'est pas trop comestible, normalement, enfin c'est fait à base de plantes, donc ça peut pas être si mauvais que ça, mais bon. Là, les supérieurs, ils se rendent compte qu'il y a véritablement un vrai, vrai, vrai souci avec Tarar, et du coup, ils l'envoient à l'hôpital militaire pour qu'on puisse un peu l'étudier. Il y a 2 docteurs qui vont se charger du dossier que représente Tarar, et qui vont tenter plusieurs expériences, je mets des gros guillemets, pour voir jusqu'où peut aller l'appétit du bonhomme. Un jour, par exemple, on lui fait apporter un repas qui est prévu pour 15 personnes, et il le mange entièrement, en faisant passer le tout avec 15 litres de lait. Et ensuite, comme un véritable patron, ça c'est quand même la classe, il s'endort directement après. Donc il bouffe ses 15 portions, puis... Donc ça c'est quand même la classe, quoi. Un autre jour, les docteurs lui apportent une anguille vivante, sans hésiter, il lui broie la tête entre les dents et il l'avale sans la mâcher. En lisant ça, ça m'a fait penser à la séquence avec Maïté, qui essaie de buter des anguilles avec son rouleau à pâtisserie, et qu'elle a « Allez ma chérie, viens ici !» Elle n'arrive pas à les tuer. Si vous ne connaissez pas, normalement c'est disponible dans les vidéos de Lina.
Il y a pas mal de trucs glauques avec Maïté aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'oiseau...
L'ortolangue.
Voilà, l'ortolangue. Allez, je lui bouffe le cul. Bouffer le derrière.
C'était une autre époque, une époque révolue malheureusement, mais grâce à YouTube et ce genre de site, on peut revoir ces brillants moments. Par contre, on n'a pas de vidéo de Tarar qui broie l'anguille et qui la mange sans même le mâcher. Du coup, il faudra me croire sur parole. Et comme si c'était pas assez ignoble cette histoire d'anguille, on apporte à Tarar des animaux de compagnie pour voir si même eux, il est capable de les manger. Et la réponse...
Eh oui.
Eh oui, évidemment. Lorsqu'on lui apporte un chat, par exemple, il le déchire avec les dents. Il en boit tout le sang, et puis il mange tout ce qu'il peut trouver dessus, donc toute la viande, en prenant soin d'éviter de manger les os. C'est quand même un gentleman.
Oui. S'il bouffe du silex, a priori, ça doit passer.
Bah écoute, apparemment, il n'a pas mangé les os.
Il a le respect, quand même.
Ouais, il a quand même le respect. Et en plus, d'ailleurs, un peu comme un chat, un peu plus tard, il vomit les poils qu'il a mangés.
Il faut lui donner un peu d'herbe aussi.
Voilà, c'est ça. Et après ces expériences, qui sont donc éminemment scientifiques, hein, je pense qu'on peut le dire, les docteurs arrivent à la conclusion qu'effectivement Tarar a un appétit et une capacité à manger largement supérieure à la moyenne.
Heureusement qu'on a fait des expériences.
Voilà.
Merci les scientifiques.
On l'aurait jamais su sinon. Et comme à l'époque il fait toujours partie de l'armée, on se met à réfléchir à la façon dont ça pourrait servir, dont on pourrait tirer avantage de cette originale spécificité. Et un beau jour, une idée vient au docteur. Comme vous le savez, en temps de guerre, une des choses les plus importantes, surtout à cette époque-là, c'est la communication, et surtout le fait de pouvoir passer des messages sans qu'ils ne soient interceptés par l'ennemi. Et peut-être que Tarar, et surtout son estomac, pourrait servir à faire passer des messages. Peut-être que Tarar pourrait servir de porte-document. Pour s'assurer que la mise en place de l'idée est possible, on lui fait ingérer, j'imagine sans avoir à trop le prier, une boîte en bois qui contient un message et de la bouffe. Hein. Et deux jours plus tard, la boîte ressort manifestement intacte. Alors j'ignore s'il en est de même pour le derrière de notre pauvre héros, hein, ça l'histoire ne le dit pas. Mais en tout cas, la boîte est intacte et du coup le message qu'elle contient est parfaitement lisible. Du coup, ça devient un peu officiel. On peut confier une mission de messager à Tarar sans avoir à craindre qu'une fouille ennemie ne puisse livrer d'importantes informations. Puisque son estomac sera certes plein, mais ses poches seront vides. Et en général, c'est ça que l'ennemi fouille. Et pour s'assurer de sa fidélité, on lui promet des montagnes de nourriture. Avec même un paiement en avance. On lui apporte 14 kilos de foie et de poumons de taureau, cru, hein, évidemment. Et il les bouffe en entier devant une foule stupéfaite, sans demander son reste. Le mec, il bouffe tout et puis il part en mission. Quoi. Et du coup, pour sa première mission, il va être chargé d'apporter un message à un colonel français qui est emprisonné par les Prussiens, encore eux, décidément. Il fout tout le temps la merde. Et donc, quelque part en Allemagne. Et donc, on lui confie la précieuse boîte, ainsi qu'un uniforme allemand, pour passer plus ou moins incognito. Mais malheureusement pour Tarar, deux choses viennent poser problème. La première, c'est qu'il ne parle pas allemand. Et la deuxième, c'est qu'il semblerait qu'un individu qui passe son temps à supplier pour de la nourriture et à manger toutes les ordures qu'il peut trouver, ça attire un peu l'attention. Du coup, il y a vite des gens qui lui demandent qui c'est, et sa couverture ne fait pas long feu quand on voit qu'il parle pas allemand. Alors certes, on ne trouve rien sur lui, mais de nombreuses heures de torture ont raison de son patriotisme, et il avoue tout. Il a avalé un message d'une importance capitale qui ne demande qu'à ressortir. Du coup, on enchaîne Tarar sur des toilettes, et on attend que ça sorte. Et quelques heures plus tard, le message est délivré. Avide de la moindre information qui leur permettrait de déstabiliser les Français, les Prussiens déchantent en fait très vite en lisant la missive, car ayant plus d'un tour dans son sac, le général français, qui avait donc confié le message à Tarar, avant de lui confier de vrais messages, il voulait d'abord tester sa capacité à mener à bien sa mission. Du coup, en vrai, la note est complètement dénuée d'intérêt, limite il est juste mis bonjour, comment ça va? Et du coup, ça met les Prussiens très en colère et ils disent « on va pendre ce mec ». Et donc, ils l'envoient pour être pendu. Du coup, on amène Tarar à la potence, corde autour du cou et tout, et du coup, il commence à penser que sa fin est proche, et il ne cesse de supplier qu'on lui laisse la vie sauve. Cette technique, normalement, ne fonctionne jamais. Mais là, Tarar a un coup de chance, ça sent porter ses fruits. On se contente de le tabasser, bien comme il faut. Hein.
Oh, ça va alors.
Un bon petit tabassage en règle, mais on ne le pend pas, et on le dégage, et on lui dit, on le relâche, quoi. En lui disant bien, attention, hein, ne t'infiltre plus chez nous. Hein. Du coup, Tarar a compris la leçon, il est traumatisé, il est incapable de participer à quelconque bataille, il ne sert plus à grand-chose. En plus de ça, il est épuisé et affamé et bien sûr déprimé. Parce que ce qui lui est arrivé est particulièrement choquant. Bref, Tarar veut changer de vie. Il se rend à l'hôpital en suppliant le moindre docteur qui veut bien l'entendre de le soigner de son appétit sans faim. Faim, F-I-N, ainsi que F-A-I-M, par ailleurs. Pierre-François Percy, c'est le chirurgien en chef de l'hôpital où Tarar s'est rendu, qui avait déjà d'ailleurs réalisé les fameuses expériences sur lui par le passé, accepte d'aider Tarar, et il va essayer tout un tas de trucs pour couper son appétit. D'abord, il tente un traitement au laudanum. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, en fait, c'est un truc qui contient que des bonnes choses. Par exemple, j'ai retrouvé une recette, prendre du vin espagnol, de l'opium, du safran, de la cannelle, et un peu de girofle réduite en poudre. Donc, ça peut être sympa, quoi.
Ouais. C'est bio.
C'est bio, tout à fait. Mais malheureusement, ce traitement bio échoue. Mais le baron Percy, car oui, c'est un baron, en plus d'être le chirurgien en chef de l'hôpital, ne désespère pas. Il va tenter tout un tas d'autres traitements, à base de vinaigre blanc, de pilules de tabac, d'une quantité astronomique d'œufs à la coque. Ne me demandez pas pourquoi. Hein, c'est...
Ah bah c'est sûr que si tu le nourris, après il a plus faim, ça marche.
Et rien n'y fait. Et une idée lui vient. Peut-être qu'il t'a entendu, Cédric. Il se dit, justement, et si au lieu de toujours nourrir Tarar, on le mettait au régime, bordel? Grossière erreur, chers amis. À la moindre occasion, Tarar s'enfuit de l'hôpital et tout y passe. Il vole tout ce qu'il peut trouver et on le surprend à plusieurs reprises en train de se battre avec des chiens errants pour de la nourriture. Pour des tripes, des abats, un peu tout ça, à la sortie des boucheries. Du coup, Percy fait renforcer la sécurité autour de Tarar, qui ne peut plus quitter l'hôpital. Ça ne suffit pas. Il va jusqu'à boire le sang des perfusions des autres patients et tenter de dévorer les cadavres dans la morgue. Tout le monde veut que Tarar soit expulsé de l'hôpital parce qu'il commence à faire peur à tout le monde.
Oui, c'est quand même un petit peu flippant, là.
Mais le baron Percy, à son moment...
Il le digère, en plus, le sang. Il y a pas, c'est pas, quand tu bois du sang humain, c'est pas un peu empoisonnant. Avec le nouillon, il y a trop de fer dedans et du coup, ça te fait un empoisonnement au fer, je crois.
Il mange tellement d'autres trucs, ça équilibre.
Ouais,
tu vois,
c'est... il a un système digestif pas normal.
Il a un système digestif de fou, quoi. Et le baron Percy... il persiste à dire qu'il ne faut pas expulser Tarar de l'hôpital parce qu'il représente un cas vraiment unique et il est vraiment passionné par le fait de l'étudier. Malheureusement, un jour, un bébé de 14 mois disparaît de l'hôpital et tous les yeux se tournent vers Tarar. Tarar.
T'exagères, là.
La fureur populaire est trop grande. Percy ne peut plus rien pour Tarar qui est expulsé manu militari du bâtiment. Petite parenthèse. On ne sait toujours pas aujourd'hui si c'est lui qui a bouffé le bébé ou pas. On ne le sait pas. Mais il était très fortement soupçonné. Et donc, du coup, il a fallu le dégager. Et quelques années plus tard, c'est un Tarar très affaibli qui rejoint un nouvel hôpital, situé cette fois à Versailles. Et c'est un Tarar qui souffre le martyr qui a reçu l'hôpital. Il demande d'ailleurs à parler au chirurgien en chef, un certain Tessier, qui accepte une entrevue dans laquelle Tarar lui explique ce qu'il pense être la source de ses maux. Il y a 2 ans déjà, il a avalé une fourchette en argent qui n'est jamais ressortie. Les symptômes de Tarar sont les suivants. Il est brûlant de fièvre, il ne cesse de tousser et il crache régulièrement du sang. Quelques mois seulement suffisent d'ailleurs pour avoir raison de lui et il rend son dernier souffle en 1798. Et outre la potentielle présence d'une fourchette dans l'estomac, il souffrait probablement vu les symptômes d'une tuberculose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son corps empeste tellement que de nombreux chirurgiens se refusent à le disséquer. Ils disent non, ça c'est trop. Mais la curiosité du corps médical finit par l'emporter, et on ouvre quand même finalement Tarar pour voir ce qu'il y avait de si spécial, et éventuellement retrouver la fameuse fourchette. Sait-on jamais. Pour cette dernière, pas de chance, je vous le dis tout de suite, on ne met jamais la main dessus. Et en fait, Tarar, quand on l'ouvre, on se rend compte qu'il n'est qu'entrailles putréfiées. Du coup, la fouille tourne très court, tant l'odeur est insurmontable. On lui décèle tout de même, dans la panique, un œsophage anormalement large. Et apparemment, quand on regarde dans sa bouche, on peut voir jusqu'à très profondément dans son estomac. Ainsi s'achève, en tout cas, à 26 ans seulement, la vie du plus grand vorace que l'histoire ait jamais connue. Et avant de conclure, avant de passer à la suite, j'aimerais quand même parler un petit peu de l'apparence de Tarar.
Oui, c'est ce que j'allais te demander, justement.
Parce que justement, en écoutant mon histoire, à mon avis, vous avez peut-être dû vous dresser une sorte de portrait mental de ce à quoi il peut bien ressembler. Du coup, à votre avis, à quoi est-ce qu'il ressemble? Comment est-ce que vous imaginez Tarar?
Moi, justement, je l'imagine comme un mec tout chétif, parce que ça me fait penser au personnage de comics The Flash, justement, qui, comme il consomme beaucoup d'énergie, doit manger très très souvent en grosse quantité. Mais vu qu'il les brûle très vite et doit remanger très vite, il grossit pas.
Il grossit pas. Et toi, Quentin?
Moi, je m'imagine un mec tout gaise, quoi.
Oui, je dirais de corpulence plus ou moins normale, pas un obèse, en tout cas.
Eh bien, vous êtes très intelligent, effectivement. Mais commençons par sa bouche. Qu'on décrit comme gigantesque, forcément, il faut de la place hein, pour y insérer des pommes entières, mais avec de minuscules lèvres, et apparemment il avait des joues toutes ridées, qui pouvaient se tendre énormément, donc ses joues elles pendaient un peu comme ça, elles étaient toutes ridées, et quand elles se tendaient, forcément, elles étaient moins ridées, et elles pouvaient se tendre vraiment très très fort. Il avait toutes ses dents, ce qui est original pour l'époque, elles étaient dans un plus ou moins bon état d'ailleurs, même si elles étaient très sales et tachées, forcément avec tout ce qu'il mangeait. Au niveau des cheveux, il avait des cheveux blonds extrêmement fins. Et concernant sa corpulence, eh bien, vous avez vu assez juste, parce que c'est vrai qu'on pourrait se faire l'image d'un énorme porc en surpoids, mais non, détrompez-vous, à la vingtaine, il ne pesait que 45 kilos. Et un peu comme ses joues, la peau de son ventre pendait tellement qu'il pouvait l'enrouler autour de sa taille. Et quand il mangeait suffisamment, alors là, ça devenait vraiment comme un gros ballon, ça se tendait vraiment super fort et il ressemblait à un gros ballon. Et dès que les heures passaient, ça se dégonflait, il redevenait tout maigre et sa peau pendait très fort. Durant sa vie, Tarar y suait en permanence et son corps était perpétuellement brûlant. Certains racontent même, mais là j'ai quand même du mal à y croire, que son corps dégageait une sorte de fumée apparente.
Genre le métabolisme tellement.
Voilà. Ça fait presque BD d'imaginer un mec qui fume comme ça. Mais en tout cas, ce que tous s'accordent à dire, c'est que Tarar puait énormément. Il était impossible de l'approcher à 20 pas sans avoir des hauts le cœur. Et aujourd'hui encore, il est difficile de mettre le doigt sur ce dont pouvait bien souffrir Tarar, puisque aucun autre cas similaire n'est identifié à l'époque, ni même aujourd'hui. En tout cas, pas dans des proportions pareilles. Et la cause la plus probable serait une blessure à l'amygdale qui aurait pu produire une polyphagie, je vais vous définir la maladie, la définition de Wikipédia. Maladie caractérisée par une faim excessive, avec une absence de sensation de satiété, traduisant un excès dans le comportement alimentaire. Donc là, ça coche quand même pas mal de cases. Et une autre hypothèse, qui peut en plus s'additionner à la polyphagie, donc c'est pas l'un ou l'autre, ce serait un problème au niveau de la thyroïde, puisque de nombreux aspects physiques de Tarar peuvent trahir une hyperthyroïdie, notamment le fait qu'il transpirait en permanence, qu'il ne prenait absolument pas de poids, ou encore qu'il avait des cheveux très fins. Donc c'est peut-être l'addition et une malchance absolument incroyable de tous ces symptômes qui a pu créer l'espèce de, je vais pas dire de monstre, mais de personnage incroyable que fut Tarar. En tout cas, toujours est-il que même avec les moyens dont la médecine dispose aujourd'hui, personne ne peut vraiment mettre le doigt sur ce qu'il avait, en tout cas pas avec une assurance totale, et du coup on ne saura probablement jamais de quoi Tarar souffrait réellement. Voilà qui conclut mon dossier. Quentin, je vois que t'es dans les starting blocks là.
Oui, plus ou moins.
Est-ce que t'es prêt pour ton dossier?
Bien sûr.
Eh bien vas-y, on t'écoute.
Eh bien je vais vous parler de Jack Churchill, donc John Malcolm Thorpe Fleming Churchill, surnommé Mad Jack Churchill, donc le fou Jack Churchill. Donc pour vous le présenter, je vais d'abord vous poser une question. Si vous deviez me dire de quelle guerre date la dernière personne abattue par un arc à flèche, de quelle guerre placerez-vous
ça?
Par un arc à flèche.
Ça va sûrement être beaucoup plus récent.
Ben oui,
qu'on
ça.
Croit.
Du coup, si tu poses la question, c'est que ça va être.
Il y a une arnaque.
Récent,
il y a clairement une arnaque.
Vas-y, je te laisse.
Non.
Documenté.
Documenté.
Oui.
Je ne me risque pas.
Allez, je vais dire Première Guerre mondiale.
C'était presque ça. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un personnage assez excentrique. Et alors, pour le présenter, je vais vous parler d'abord de quand il est né et d'où il a vécu. Donc, John Malcolm Churchill est né en 1906 à Ceylon, donc sur l'île du Sri Lanka. Et vers 1911, ses parents reviennent en Angleterre. Il grandit sur l'île de Man. Et il est diplômé du Collège Royal Militaire en 1926. Il va ensuite être déployé en Birmanie en tant qu'officier militaire. Alors, on est en 1926, donc c'est l'entre-deux-guerres. Donc une période relativement calme entre deux grands conflits. Et donc il va s'ennuyer. Il va chercher par tous les moyens à énerver ses supérieurs. Donc par exemple, pour donner quelques anecdotes, une fois, son officier supérieur demande à tout le camp de se mettre en formation, garde à vous, pour faire un briefing le matin. Et alors il pleut ce jour-là, et Churchill arrive avec son parapluie, en arrivant calmement en retard avec son parapluie. Alors son officier lui demande « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?»« Sœur, il pleut !» Alors il se voit en guirlandais. Ou alors, contre le protocole, il dort le soir avec une bouillotte dans son lit, alors que c'est interdit. Donc ses officiers vont...
En fait, il aimait juste être comme fille, ce mec.
C'est ça, ouais,
c'est ça. Il aimait bien
juste être cosy.
Ouais.
C'est la paix, voilà, c'est... Pourquoi se priver ?
Et ses officiers n'aiment pas ça, parce que c'est contre le protocole. Et alors, il va s'arranger pour fabriquer une sorte de long tube en caoutchouc, oui, qui va remplir d'eau chaude et qui va servir la même fonction, en fait. Mais c'est pas écrit dans le protocole qu'on peut pas utiliser un long tube en caoutchouc pour
c'est ce genre de personne.
Ah ouais.
Donc il va s'ennuyer et ça va amener beaucoup de conflits avec ses supérieurs. Pour tromper un peu cet ennui, il va apprendre à jouer de la cornemuse et à tirer à l'arc à flèche. Il va aussi faire de longs voyages à travers l'Asie du Sud-Est à l'aide d'une mobylette. Il va parcourir des milliers de kilomètres sur des chemins pas très adaptés à la mobylette vu que c'est des années 30, en Asie du Sud-Est, quoi, il n'y a pas vraiment des routes, et donc il va quand même faire des longs voyages en mobylette sur des petites routes de terre. Ça va durer jusqu'en 1936, où il n'en peut vraiment plus, et il va démissionner de sa commission militaire. Il va exercer alors plein de petits métiers, un peu à travers le monde, il va travailler comme journaliste au Kenya, il va apparaître dans quelques rôles de figurant au cinéma, de sa qualité de tireur d'arc à flèche, il va pouvoir par exemple interpréter des archers... Des petits rôles. Et il va participer à des championnats d'archerie et de cornemuse où il va être plus ou moins bien placé. Mais la peine ne va pas durer éternellement. Et bientôt, on arrive en septembre 1939, et c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Churchill demande d'être intégré à l'armée, et il va être déployé en Europe. Mais pas de chance pour lui, c'est pendant les premiers mois de la Deuxième Guerre mondiale, ça va être ce qu'on appelle la période de la drôle de guerre, où donc les Allemands vont envahir la Pologne, et pendant ce temps-là, la Grande-Bretagne et la France vont déclarer la guerre à l'Allemagne, mais pendant plus ou moins 6-7 mois, il ne va rien du tout se passer. Toutes les deux armées vont camper le long de la frontière française, et en fait, Churchill commence à être exaspéré parce qu'il
voulait
absolument de l'action, il voulait se battre.
S'ennuie.
Et il arrive comme ça, c'est enfin la guerre, et il est forcé de rester en place. Alors il décide de s'engager dans les régiments volontaires pour aller se battre en Finlande, parce que pendant ce temps-là, il y avait l'armée rouge qui avait envahi la Finlande, et la Finlande n'était pas encore alliée à l'Allemagne, et donc il y a plein de bataillons volontaires, notamment des Suédois, mais aussi des Anglais, qui sont venus en Finlande pour aider à combattre l'armée rouge. Mais alors qu'il allait déployer là-bas, c'est trop tard, les Allemands ont commencé leur invasion de la France, et Churchill est rappelé en France. Et il participe à la campagne de Dunkerque, qui est plutôt en fait la retraite de Dunkerque vers l'Angleterre. En fait, c'est la fois où les Allemands qui ont fait la course vers l'Atlantique, et les Britanniques qui sont désemparés de toutes parts et qui sont repoussés vers Dunkerque, où ils vont devoir évacuer vers l'Angleterre. Alors cette campagne est normalement une retraite, mais Churchill va réinterpréter ses ordres et il va mener des raids contre les Allemands. Alors il faut savoir que Churchill, en plus de son arc à flèche, en plus de sa cornemuse, il avait aussi une claymore, donc une longue épée écossaise.
C'est parfait.
Alors, c'était un peu anachronique. C'était pas tant anachronique que ça, parce que...
En fait, on dirait un personnage de jeu de rôle à qui tu peux donner tout et n'importe quoi.
C'est le mec de Brevard.
Parce que, en fait, les officiers, avant les officiers militaires, avaient une épée, un sabre. Mais en fait, ça a été démodé pendant la Première Guerre mondiale. Parce que même si les uniformes britanniques étaient fort ternes, enfin, c'était les premiers à avoir des uniformes kaki, fort terne, mais on ne faisait pas forcément la distinction entre officiers et soldats. Mais ce qui les différenciait au début de la Première Guerre mondiale, c'était en fait que les officiers avaient tous un sabre. Et alors, c'est un problème parce que les snipers allemands savaient différencier les officiers avec leur sabre. Et donc, finalement, ils avaient tous dû retirer leur sabre. Et donc, c'était plus vraiment la mode d'avoir un sabre. Donc... C'était anachronique, mais pas si anachronique que ça, parce que c'était un changement récent. Et c'est pendant cette campagne de Dunkerque qu'il va tuer des Allemands avec son arc à flèche, en les chargeant à l'arc à flèche. Il y a aussi une anecdote amusante où il était en mission pour aller neutraliser une mitrailleuse allemande, et alors une balle a réussi à le frôler, parce que selon lui... il était trop fatigué pour courir et donc il marchait, et alors on avait réussi à l'atteindre. Une balle le frôlait le long de la joue. Après cette campagne de Dunkerque, cette évacuation, Churchill est de retour en Angleterre et il y a la division des commandos qui s'organise. Donc les commandos viennent d'être créés pour la Deuxième Mondiale, les SAS anglais. Et il est volontaire pour aller les rejoindre. Et alors il participe à un entraînement. Et une de leurs premières missions va être débarquement en Norvège, afin d'aller neutraliser des batteries allemandes. Donc le fait que les Allemands avaient envahi la Norvège pour un accès à de l'eau lourde, je pense. Et alors, ils ont des bases là-bas. Et alors, les Britanniques vont envahir la Norvège. Et dans la mission qui concerne Churchill, il va être là pour désactiver des batteries allemandes. Alors, c'est une attaque amphibie. Donc, ils vont débarquer dans des embarcations. Et alors, pour motiver ses troupes, Churchill débarque en marchant et en jouant de la cornemuse. Complètement, en n'ayant aucune conscience du danger autour de lui, il mène ses troupes à la cornemuse et il charge en lançant des grenades. Donc c'est un succès, il envoie un télégramme à ses supérieurs en disant que les batteries ont été neutralisées. Un peu plus tard, lors de la guerre, la prochaine campagne qui l'intéresse, c'est le débarquement en Sicile, donc où les troupes alliées vont débarquer en Sicile et remonter en travers l'Italie, où il va à nouveau mener ses troupes, claymore à la ceinture et cornemuse en bandoulière. Comme c'était des commandos, en fait, leur équipement était assez léger pour progresser assez rapidement, et alors ses troupes vont se retrouver en conflit avec des unités allemandes et italiennes qui étaient armées de façon beaucoup plus lourde. Mais les commandos vont réussir à repousser des vagues d'infanterie allemande et italienne. Et Churchill préférera toujours aller les attaquer en premier, sauter sur leur position, plutôt que d'attendre qu'ils viennent à eux et se faire tirer dessus. Donc toujours en prenant l'initiative. malgré qu'ils étaient armés assez légèrement comparés aux Allemands et Italiens en face. En Sicile, il y a une mission où il fut chargé d'aller capturer un poste d'observation allemand dans le village de Molina, près de Salerno. Et en une nuit, avec son sabre et l'aide d'un caporal qui avait quand même un fusil, il parvient à capturer la position d'observation et capturer 42 Allemands. Il arrivait près d'eux en hurlant, ils étaient par petits groupes, donc disséminés. Il arrivait près d'eux en hurlant « Commando, commando !» et en leur parlant en allemand et en leur criant dessus. Et alors, ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et c'était juste oculeux. Et ils se demandaient ce qui se passait, un type arrivait avec un sabre.
T'imagines, ça marche pas.
Et ils se rendaient. Et alors, ils disaient justement que il suffisait en fait d'hurler sur les soldats allemands et leur donner des ordres en allemand. Et alors, ils étaient habitués à obéir, donc c'est ça qui faisait que c'était une si bonne armée. Et donc, c'était finalement assez facile, c'est ce qu'ils racontaient plus tard. Alors, une de ses dernières actions pendant le conflit, c'est en Yougoslavie. Alors, il fut chargé d'organiser un raid sur l'île de Brac. Et il commandait une quarantaine de commandos et plus ou moins 1500 partisans yougoslaves. Alors, les 1500 partisans vont vite battre en retraite lors de l'assaut. Et le raid va tourner mal. Et alors, en avançant sur la position, beaucoup de commandos tombent. Et à la fin, il y a seulement Churchill et 6 autres commandos qui parviennent à atteindre la position. Là, il y a un tir de mortier qui blesse tous les autres, sauf Churchill. Alors, Churchill est tout seul sur la position. Et il voit qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. Et donc, il se met à jouer de la cornemuse. Et alors, après un tir de grenade allemand, vient l'assommer. Le souffle la somme, et il est capturé. Il est capturé par les Allemands, et comme il s'appelle Churchill, les Allemands pensent qu'il est de la famille de Winston Churchill. Donc, mais alors que c'est pas trop le cas. Enfin, il y a sans doute une connexion, mais
ouais,
assez lointaine.
C'est un peu comme les Dupont.
C'est ça, oui. Et donc, il est envoyé à Berlin pour être questionné, et il est envoyé ensuite, quand on se rend compte qu'en fait, il est absolument pas lié à Churchill. Il est envoyé à un camp de prisonniers politiques. Il y passe plus ou moins un an. Donc il tente de s'échapper là-bas. Il y arrive une première fois et il essaye d'atteindre la Baltique, mais il est recapturé. Et ensuite, un peu après, il y a un transfert de prisonniers vers un autre camp qui est basé dans le Tyrol. Et là, il y a beaucoup de prisonniers qui parviennent à s'enfuir parce que c'est l'armée allemande qui bat en retraite, donc c'est plus ou moins confus. Et donc, de la confusion, il parvient à s'enfuir et il doit marcher près de 150 km avant de tomber sur une compagnie américaine. Ça, c'est une en Italie. Mais là, on est presque en 1945 et Churchill est un peu irrité parce que l'armée allemande est sur le repli partout et donc la guerre en Europe se termine. Et c'est là qu'il réfléchit. Oui, je sais pas si tu allais.
Non, j'allais dire quel cauchemar pour lui.
Bah oui, c'est un cauchemar.
La paix, non.
La paix,
quoi.
Non, c'est pas son truc.
Et c'est là qu'il réfléchit et qu'il se dit, mais there are still the Nips, aren't there? Il y a toujours les Japs, non? Et alors, c'est une bonne réflexion. Et donc, il demande à être envoyé en Asie pour il rejoint la Birmanie où il commence à y avoir les préparations pour l'invasion du Japon. Mais à ce moment, juste quand il arrive, les Américains ont largué leurs bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Et le Japon se rend. Et donc c'est là que Churchill s'exclame « Si c'était pas pour ces satanés Yankees, on pourrait avoir continué la guerre pendant encore 10 ans !» Donc il était vraiment dépité de sa dernière année en captivité, vu qu'il avait raté tellement de trucs. Et la guerre se termine. Mais c'est pas la fin de la carrière de Churchill. En 1948, il est déployé en Palestine, où il est appliqué dans les conflits entre juifs et palestiniens. Et alors, il participe à plusieurs opérations, où notamment il parvient à sauver plus ou moins 700 juifs d'une insurrection palestinienne. Il y a aussi, il continue un peu sa carrière au cinéma, où il apparaît par exemple dans le film Ivanhoé en 1952, où il interprète un archer. Ensuite, après cela, il déménage en Australie, où pour un temps, il devient instructeur pour l'école de combat Herter en Australie. Et tant qu'il y est, il apprend à surfer. Il aime toujours apprendre de nouveaux trucs. Enfin, il prend sa retraite en 1959 et revient en Angleterre. Et alors, pour l'anecdote, son excentricité ne s'arrête pas là, vu que tous les jours, pour rentrer chez lui, il prenait un train. Et Il jetait sa valise par le... Avant d'arriver, un peu avant la gare, il jetait sa valise par la fenêtre du train. Et alors, un jour, on lui a demandé d'expliquer. Il disait qu'en fait, la ligne de chemin de fer passait tout près de sa maison et il jetait juste sa valise dans le jardin pour ne pas avoir à la porter jusqu'à chez lui. Après cela, une de ses dernières passions fut de jouer avec des miniatures de navires de guerre radiocommandées sur la Tamise. Et c'était une de ses dernières passions, le dernier hobby qu'il a pris. Et John Churchill meurt finalement en 1996, donc à 90 ans. De cause naturelle, finalement. Hein.
Ah, de toute façon, avec la vie qu'il a eue, il pouvait mourir que de ça. Hein.
C'est ça.
C'est pas un petit cancer qu'il allait le prendre. Hein. C'était forcément un endormant qu'il allait partir.
Et donc voilà, c'était le personnage assez insolite, finalement.
Ah, je crois que là, on est bien.
Ouais, j'en avais déjà entendu parler, mais je me souvenais plus de tous ces détails.
Est-ce qu'il y a eu des films ou quoi sur lui ?
Je ne sais pas s'il y a eu des films. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Mais c'est vrai que ça fera un bon sujet de film.
Ah bah, ouais. Carrément.
Clairement.
On va envoyer un mail à Netflix, qui sera intéressé.
En tout cas, j'ai qu'une envie, c'est d'aller regarder les films dans lesquels il est apparu pour un peu voir le patron que ça devait être.
Il va Noé, je vois l'acteur principal, mais
après, il joue des figurants.
Oui, d'office.
Oui, mais bon, justement, tu peux essayer de le repérer et tout
c'est
ça.
C'est ça, quoi.
Et donc, c'est lui qui a finalement...
Qui a le dernier kill à l'arc officiel.
Le dernier kill à l'arc et flèche.
Jusqu'ici.
Pour
l'instant.
Pour l'instant. Avec les arcs qu'on fait maintenant, je suis sûr que dans certaines situations, ça pourrait être vachement utile.
Ça pourrait être vachement utile, effectivement.
Ouais, parce que ça ne fait pas de bruit. D'ailleurs, les officiers allemands, quand on leur listait la liste des blessés, les causes, ils disaient arrêtez de rire. Blessure par arc et flèche.
Blessure par arc.
Et en tout cas, je retiendrai aussi sa technique d'aller gueuler dans la langue de l'ennemi sur l'ennemi.
C'est
pas si con, en fait.
Non,
hein.
C'est vrai.
Parce que si t'arrives à le déstabiliser, ne serait-ce que quelques secondes, le temps qu'il se demande, ça peut être suffisant.
Ça peut être suffisant.
Ça peut être suffisant. Allez, très bon dossier, Quentin, merci beaucoup.
Ouais, clairement.
Cédric, à ton tour.
À mon tour, ouais, comme d'hab, hein, toujours difficile de passer après Quentin. Mais l'avantage, c'est que moi aussi, je vais parler d'un militaire. Du coup, il y a petite thématique.
On aura tous les trois parlé de militaires.
Tous des soldats.
Il y a un petit peu de soldats. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage relativement singulier, hein, comme vous allez pouvoir le découvrir, qui s'appelle Ronald Gene Simmons. Peut-être que le nom parlera à certains qui vont du coup le redécouvrir. C'est un homme qui est originaire de l'Illinois et qui est né en 1940. Donc lui, militaire, mais il n'aura pas eu l'occasion de faire les guerres, il était un petit peu trop petit. Et il n'a pas un début de vie facile, puisque donc il naît en 1940 et son père va mourir d'un AVC dans la première année de sa vie. Donc il va jamais vraiment le connaître. Sa mère va se remarier assez vite, un peu trop vite diront certains, mais bon, c'est des on-dit. Et elle va se remarier avec un ingénieur civil de l'US Army. Et du coup, ben, ça veut dire beaucoup, beaucoup déménager. Et l'enfance de Ronald va être pas mal rythmée par tous ces déménagements qui vont être imposés par le travail du beau-père. Et c'est cette absence de repères et de racines qui vont contribuer à faire de Ronald un très très mauvais élève, genre un petit peu vraiment le stéréotype du gars qui écoute rien, qui a des mauvaises notes, etc. Et il va complètement décrocher du circuit scolaire vers 17 ans. Et faute d'options, et sans doute influencé par son beau-père militaire, même si j'ai pas trouvé de preuves qui confirment ça, mais on peut décemment le penser, il va s'engager dans l'armée, l'US Navy pour être précis. Et il va effectuer son premier stationnement à Washington, où il va rencontrer la femme de sa vie, Rebecca. Il va avoir 22 ans de carrière, d'abord dans l'US Navy, puis dans l'US Army. Et c'est un militaire vraiment exemplaire. Il va notamment être décoré de l'étoile de bronze, pour ceux qui savent ce que c'est. Sinon, c'est une étoile qu'on décerne pour des actes héroïques, notamment en zone de guerre. Donc voilà, c'est pas Joel Rigolo qui chope sa croix de bronze à la sortie. Et le Ribbon for Excellent Marksmanship, donc qu'on décerne aux gens qui ont des compétences hors du commun pour le tir. Et il va prendre sa retraite en 1979, je le prononce à la française pour nos auditeurs outre-frontière, avec le grade plutôt honorable de Master Sergeant. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et on suppose donc qu'il va pouvoir enfin profiter des 7 enfants qu'il a eus avec sa femme pendant sa carrière, qui sont pour l'instant âgés pour le plus vieux de 21 ans et pour la cadette de moins d'un an. C'est un petit bébé tout frais. Et là, vous vous dites, Mais Cédric, jusqu'à ton histoire, c'est super banal. Il y a des milliers de familles américaines comme ça. En quoi est-ce que sa vie est incroyable? Sur quoi je vous réponds, calmez-vous, j'y viens.
Excuse-nous, on se calme.
Calmez-vous tout de suite. Parce qu'à partir de ce tableau, on va encore avoir plus de peine à croire à ce qui va suivre. En effet, à peine 2 ans après sa mise à la retraite, on va ajouter un petit peu de noir sur ce joli tableau. Et quel plus beau noir que le noir de l'inceste et de l'abus sexuel?
Ah, ah. Il a fallu attendre un peu.
Il a fallu attendre un
peu. Tu nous as pas déçus.
Voilà, on y est. Donc en 1981, 2 ans donc après sa mise à la retraite, il y a une enquête qui est ouverte auprès des services sociaux pour suspicion d'inceste avec sa fille de 17 ans, Sheila, dont on soupçonne d'ailleurs qu'il abusait régulièrement et qu'il serait d'ailleurs potentiellement le père de sa première petite fille, qui serait du coup aussi sa fille, Sylvia.
Un peu comme Joseph Fritzl, quoi.
Oui. Du coup, il va craindre, à juste titre je pense, que cette enquête va le conduire en prison et faire un petit peu éclater sa famille. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire déménager tout ce petit monde du Nouveau-Mexique, où ils sont pour l'instant, vers l'Arkansas. D'abord à Ward, puis enfin à Dover, où ils vont s'établir pour de bon en 1983. Les autorités ne le poursuivront pas là-bas. Au début, on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, on apprend en fait que les charges auraient été apparemment abandonnées à la demande de la victime présumée. Donc c'est Sheila qui aurait été dire c'est faux, arrêtez tout. Peut-être sous l'influence de Ronald lui-même, mais ah ouais. On n'en sait rien, donc ça, on ne peut que le supposer. Une fois arrivé à Dover, Ronald, qui est un bricoleur dans l'âme, arrive sur un terrain complètement abandonné, et faute de pouvoir acheter une maison, il va se procurer 2 vieux mobilhomes qu'il va relier entre eux pour faire une espèce de caricature de maison un peu improbable sur un terrain vraiment reculé à l'abandon, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Mockingbird Hill. Et pour bien se rendre compte vraiment du quotidien qui va être le leur, là on parle donc d'une famille où il y a encore au moins 4 enfants mineurs. Hein. Donc il faut savoir qu'il a eu 7 enfants, mais il y en a déjà 3 qui sont majeurs, donc qui ne vivent potentiellement plus avec lui à ce moment-là. Ça fait donc 6 personnes entassées dans 2 vieux mobilhomes collés ensemble, donc sans eau courante, avec sans doute un minimum d'électricité, pas de téléphone. Et il va délimiter son terrain clandestin d'une impressionnante clôture de minimum 3 mètres de haut par endroit, afin d'avoir la paix. Comme ils sont dépourvus de téléphone, que le terrain est éloigné de la ville, bah la famille va plus ou moins disparaître des radars pour quelques années. Ronald va assurer la subsistance de sa famille en enchaînant les petits jobs, caissier, vendeur, dans les petites villes alentours, notamment donc Dover et Russellville juste à côté. Et il est à noter que plusieurs des jobs qu'il va prendre vont se finir un petit peu en eau de boudin, puisqu'il va être renvoyé suite à des plaintes pour harcèlement sexuel ou attouchement. À l'exception du dernier job, qu'il va quitter de lui-même, comme un gentilhomme, à quelques jours du Noël 1987. Et cette année, 1987, Ronald, il a vraiment l'intention de faire de ce Noël une soirée mémorable. Et pour ce faire, il va demander à ses enfants de creuser un grand trou dans le jardin.
Ça devient glauque ton histoire.
Pour construire une cabane, leur dit-il. Nous sommes le 22 décembre. L'esprit de Noël gagne les cœurs. Et Ronald attend que sa famille rentre pour leur faire la surprise. Il entend sa femme. Et tandis que sa femme ouvre la porte, il l'accueille avec une balle de 22 mm dans la tête. Son fils aîné, qui l'accompagnait, n'aura pas le temps de pleurer sa mère bien longtemps, puisque la balle suivante est pour lui.
Aïe, aïe, aïe.
Isolés comme ils le sont, la seule personne qui entend les coups de feu, c'est Barbara, la petite fille de 3 ans qui rentrait avec son père et sa grand-mère. Ronald la rattrape facilement et s'en débarrasse par strangulation.
Ah, donc il change un peu les méthodes.
Il change un petit peu.
Bah, c'est vrai qu'une balle, ça coûte cher. Donc,
exactement, il faut économiser.
Enfin, c'est une poivade d'eau quand même, c'est pas...
Du coup, dans le grand trou du jardin, à défaut d'une cabane, il y a désormais 3 corps. Patiemment, Ronald va attendre la fin de la journée, que ses 4 cadets rentrent de leur dernier jour d'école. Le bus scolaire va les déposer. Et tandis qu'ils rentrent, Ronald va encore faire parler un peu la magie de Noël en leur promettant un cadeau en avance, mais qu'ils doivent venir chercher un par un. Il va donc les attendre dehors, à proximité d'un baril d'eau de pluie, où il les étranglera la tête sous l'eau un par un, sans doute pour les empêcher de crier. Dans le grand trou du jardin, il y a désormais 7 corps. isolés comme ils sont, personne ne s'inquiète de ne voir personne pendant 4 jours, jusqu'au 26 décembre, où le reste de la famille qui ne vit donc plus avec eux, les enfants les plus âgés, vient rendre visite pour la tradition de Noël, donner les cadeaux, faire coucou dans la famille, tout ça, tout ça. Et c'est Billy, donc l'aîné des garçons survivants de Ronald, qui va arriver en premier, avec sa femme Renata et leur petit garçon d'un an, William. En guise de cadeau, Billy et Renata n'auront également droit qu'à quelques balles de 22 mm, tandis que le bébé sera noyé dans le baril utilisé il y a quelques jours.
Mais dis, ça devient un génocide à ce niveau-là.
Commence à y avoir un petit paquet quand même. Puis c'est au tour de sa fille aînée Sheila, hein, donc pour ceux qui ont suivi, c'est celle avec qui il a supposément eu déjà un enfant.
Quand elle avait 17 ans.
Exactement. Et elle arrive donc avec son mari et ses deux enfants, dont l'aîné est sans doute le fils de Ronald, enfin la fille de Ronald. Et inutile de préciser aussi donc, du coup, que l'apéritif va tourner court, puisque le même scénario va se répéter. Meurtre par balle pour les adultes, strangulation pour les enfants. Dans la maison, il y a donc désormais 5 corps parfaitement alignés dans le salon, tandis que les deux bébés vont être recouverts de films plastiques et abandonnés dans des voitures non loin de là. Là, on se dit ça pourrait s'arrêter là. Il pourrait, comme c'est souvent le cas, retourner l'arme contre lui et on n'en parle plus, c'est terminé. Mais non, parce que Ronald a encore des cadeaux à distribuer. Mais pas tout de suite, pas tout de suite, puisqu'il va d'abord passer la soirée dans un bar de la ville comme si de rien n'était. Et toute la journée du lendemain, il va passer la journée devant la télé, à boire de la bière, tandis qu'il y a 5 cadavres à quelques mètres de lui, visiblement peu remués par cette situation. Le 28 décembre, donc 2 jours après la seconde série de meurtres, peut-être à court de bière, l'histoire ne le dit pas, Ronald va se rendre à Russellville, donc une des villes où il avait travaillé auparavant, et il va se rendre dans un cabinet d'avocats. Il va se diriger vers la réception, et il va abattre la réceptionniste, dont l'unique crime avait été de refuser ses avances dans le passé. Il va ensuite repartir calmement en direction des bureaux d'une autre entreprise, où il abattra un employé et blessera grièvement le patron. Puis encore, un autre petit magasin où il avait travaillé, où il blessera 2 employés, mais qui par chance survivront tous les deux. Et enfin, il va se rendre dans un dernier endroit, qui est également un de ses anciens lieux de travail, où il abattra une employée Joyce, dont on suppose qu'elle avait également dû refuser ses avances. Une fois abattu, Ronald va s'asseoir et commença à discuter tranquillement avec une secrétaire présente, en attendant la police, qui lui a ordonné d'appeler en la menaçant de son arme. « Je suis venu faire ce que je devais, mais c'est terminé maintenant. J'ai eu tous ceux qui voulaient me faire du mal. Ici, je voulais juste tuer Joyce. Seulement Joyce. » Il n'opposera aucune résistance à la police et sa série meurtrière s'arrête enfin après 16 morts et 4 blessés. Son bilan psychiatrique le déclare sain et apte à être jugé, ce qu'il sera d'ailleurs en 2 fois. D'abord pour les 2 personnes et les 4 blessés de Russellville, où il sera condamné à une peine de mort et 147 ans de réclusion, au cas où, j'imagine.
Ouais, on peut cumuler les peines.
Oui, t'inquiète, ça va venir. Il va d'ailleurs y délivrer un assez bref témoignage. Il va dire « À ceux qui s'opposent à la peine de mort, dans mon cas très particulier, n'importe quelle autre peine que celle-ci aurait été cruelle et inadéquate. » Donc là, j'ai traduit, mais c'est l'adage « cruel and unusual punishment ». C'est un adage en fait que les prisonniers utilisent quand ils estiment qu'une peine qui leur est infligée pourrait être soit humiliante ou engendrer plus de souffrance qu'elle ne devrait. Ce qui est quand même culotté, vu le palmarès du gars la semaine qui vient de passer, quoi. Puis ensuite, donc, il y aura un deuxième procès pour les 14 membres de sa famille qui l'a tué, qui vont ajouter 14 peines de mort à la peine de mort qu'il a déjà, plus les 147, les 147 ans. Donc 15 peines de mort, même s'il avait été un chat, c'était impossible qu'il ressorte debout, c'était terminé pour lui. Et Ronald accepte les peines et refuse d'aller en appel. Il déclara d'ailleurs à l'issue du procès « Moi, Ronald Gene Simmons, souhaite qu'il soit reconnu que ma volonté s'oppose à toute action entreprise en appel pouvant modifier la peine prononcée. Je demande également que la peine soit respectueusement appliquée dans les plus brefs délais. » Et en effet, c'est donc Bill Clinton qui signera le mandat d'exécution en mai 1990. et il sera mis à mort moins d'un mois plus tard, le 25 juin 1990, par injection létale. Et là s'arrête la fabuleuse histoire de Ronald Gene Simmons.
Une très belle histoire, effectivement. On est vraiment passé par tout un tas de criminels. D'abord, ça faisait penser à Joseph Fritzl. Puis on est passé par l'affaire Dupont de Ligonnès, un petit peu. Hein. Ça ressemble à tout ça. Il a tué sa famille et les autres dans le jardin. Et puis on a fini sur quoi à qui ça vous a fait penser? Je sais pas, le Joker ou...
Ouais, je sais pas, des gens qui tuent un peu au hasard dans les rues. On en a eu un petit paquet ces temps-ci, donc...
Effectivement. Mais voilà. Là, c'était pas au hasard.
Ah non, là,
il a tué
pas...
tous les gens qui l'ont, ouais, selon lui, lésé.
Exactement. Le seul gars dont j'ai pas trouvé pourquoi il l'avait tué, c'est un des hommes de Russellville, parce que donc la dernière Joyce, on est quasi sûr que c'est parce que c'est aussi quelqu'un qui avait refusé ses avances. La réceptionniste, pareil. Mais l'employé d'une des entreprises qu'il a visité, on pense qu'il en fait il visait le patron, qu'il n'a réussi qu'à blesser et que l'employé qui est mort, c'était plus un dommage collatéral qui était sur sa route au mauvais moment.
Peut-être que le coup est parti tout seul.
Peut-être.
Comme dans Pulp Fiction, dans la bagnole.
Peut-être, ouais. Parce qu'apparemment, en plus, on sait qu'il y a eu plus de coups de feu qui ont été tirés, mais qu'il a raté certaines des personnes qui s'échappaient. Quoi. Donc,
okay. Beau palmarès, cela dit.
C'est quand même plutôt pas mal.
C'est quoi, 16 morts sur 20?
16 morts, 4 blessés.
4 blessés. Ok.
Donc 14 membres de sa famille.
Et donc, avec ce dossier-là, tu voulais un petit peu refaire un peu vivre la magie de Noël.
Voilà, la magie de Noël, parce que bon, on est encore plus ou moins dedans, nous. Hein. Vous êtes déjà en 2020 quand vous l'entendez, mais nous, on est encore un peu dedans.
Voilà. Eh bien, s'il nous reste des auditeurs après ce sordide dossier, j'espère que vous resterez là pour le prochain épisode, l'épisode 26, qu'on fera dans, comme à chaque fois dans...
Quand il sera prêt.
Quand il sera prêt.
It's done when it's done.
It's done when it's done, exactement.
L'année prochaine, on espère.
Voilà. Mais Quentin, c'est diffusé en 2020, on t'a dit.
Tu n'écoutes pas.
Tu n'écoutes pas.
Mais pardon.
Donc maintenant, c'est pour 2021.
Ouais.
Enfin, au moins, on est tranquille pour un an. Alors.
Voilà.
Nous, en tout cas, on va tout doucement se diriger justement vers chez toi, Quentin, afin d'y déguster une délicieuse raclette. Désolé, Cédric.
Youhou.
Super. Et donc, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode. On espère que vous avez aimé. Au revoir.
Salut.
À la prochaine.